Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Avant-dernière fin de semaine de mars 2024, ici Alex Bergeon, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz. 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Avec une grosse en tout cas surtout une personne, ça a été une grosse semaine. On en parlera sûrement au courant de l'émission. La désinformation est quand même... Les fausses vérités, les faux questionnements sont peut-être l'affaire, les affaires sont dans les affaires. Conjuguez votre phrase au choix. Font en sorte que ça peut dérailler rapidement. Dans les théories la conspiration encore rendue là, c'est plus ou moins clair. En tout cas, des théories loufoques, ça, c'est sûr. Mais, dans le monde alternatif, celui qui côtoie le vrai monde, on va entendre pour des raisons obscures que les épouses de certaines personnes ne seraient pas des épouses, mais des époux. Pour discréditer, pour... C'est pas clair. Pour rendre moins crédible. L'épreuve est étrange. Encore aujourd'hui, à l'époque aussi, mais encore aujourd'hui, aux États-Unis, une théorie loufoque voudrait que Michelle Obama serait Mike. Pourquoi? Ça ferait quoi? Ça change quoi? Pas clair, mais ça serait un scandale, c'est pas clair. Et là, récemment, on a transposé ça pour la France. Et là, Brigitte Macron serait un monsieur, l'épouse d'Emmanuel Macron. Pourquoi, ça donne quoi, ça sert à quoi, c'est pas clair. Mais ça gagne en popularité parce que des gens supposément crédibles ou qui ont une tribune plus officielle ou qui sont suivis par plus de gens fait en sorte que ces théories qui n'ont pas de bon sens-là se légitimisent. Même si ça part de n'importe quoi, de rien. Et quand même que ça serait vrai, qu'est-ce que ça peut bien faire? Donc, l'épouse d'Emmanuel Macron serait un monsieur, selon ces théories étranges-là. Et c'est relayé par des adeptes de ces mêmes théories loufoques-là, théories de conspiration par la bande, parce que ce n'est pas que. Il y a évidemment tout un package qui vient avec ça, tout un assemblage de théories étranges. Et c'est quand c'est relayé que ça devient problématique, parce que souvent, c'est pas présenté justement comme étant loufoque et n'ayant pas de bon sens. C'est présenté avec un « ouais, mais tout d'un coup que ». Et ce « tout d'un coup que-là » est problématique. Dans le Journal de Montréal hier, l'ancienne députée fédérale, Maria Mourani, a relayé cette information-là de Brigitte Macron serait peut-être un monsieur. Mais elle ne dit pas que c'est complètement absurde, que c'est loufoque et que ça part de n'importe où. Elle dit que parce qu'une animatrice aux États-Unis, sur ses médias sociaux à elle, a relayé l'information, ben ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec ça. Elle écrit en plus, dans cet article-là du Journal de Montréal, Candace Owen, une personnalité américaine qui commente à sa manière l'actualité politique, le croit. Elle parie même sa carrière là-dessus. Ce que Maria Mourani, elle dit, « L'important n'est pas de savoir si cette information est vraie ou fausse. On est assez grand pour se faire notre propre opinion. » Vraiment? On est assez grand pour se faire notre propre opinion. Vraiment? Donc, on peut laisser passer ça. On peut faire... On peut dire, « Ah, ben moi, je n'y crois pas. Mais si des gens veulent y croire, c'est leur choix. » Vraiment? Je sais pas. Le problème réside dans cette tendance systématique à dénigrer et à discréditer le narratif de ceux qui pensent différemment. Là, on ne parle pas de... En fait, oui. Prenons cet autre exemple de « La Terre est plate » qui revient en force depuis quelques années. Comme quoi, évidemment, on est sur un gros disque qui flotte dans l'espace et que le soleil est au-dessus de nous et la lune en dessous et échangent leur place une fois de temps en temps. Là, faudrait ne rien dire quand des gens affirment des absurdités comme Brigitte Macron est un monsieur parce qu'eux sont bons pour le croire, donc laissons-les croire ce qu'ils veulent. Je sais pas. Mais encore une fois, à la base de tout ça, quand même que ça serait vrai, qu'est-ce que ça change? Tu sais, Brigitte Macron n'a pas de pouvoir en France, et même si elle avait du pouvoir, ça changerait quoi? Si ça avait déjà été un homme. Mais de là à dire, faut laisser passer un peu n'importe quoi, parce qu'une personne aux États-Unis a dit « je mets ma carrière en jeu », je sais pas. Il me semble que c'est stretché un peu. C'est comme laisser le bénéfice du doute à Guillaume le Métis Vierge. Parce qu'il dit « je m'en étais pas rendu compte ». Ben non, c'est de prendre les gens pour des naïfs. La fin de semaine dernière, Guillaume le Métis Vierge s'est trouvé très drôle en écrivant le mot en haine dans un bouleau d'une forêt. Et en voulant faire son drôle, il s'est filmé en disant qu'il travaillait très fort puis qu'il était bien occupé puis travailler fort de même, ça n'a pas d'allure, puis... Et en rajoutant, me semble qu'il y a une expression pour ça, mais pour dire qu'on travaille fort, mais ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Et, comble de malheur en disant ça, faut qu'il s'accote sur le seul boulot de la forêt où le mot en haine est gravé dedans. Quand il parle, comme par hasard, de cette expression-là, qui, évidemment, ne se dit plus en 2024. Parce qu'évidemment, des gens ont défendu Guillaume Lemaitre-Vierge, en plus d'offrir les pires excuses du monde en disant « Je jure sur la tête de mon père, ma mère, mes enfants, que je n'avais jamais vu le mot en haine gravé dans un arbre. » Mais encore une fois, que ça donne qu'il marche dans une forêt de boulot pour faire une joke qui a trop de boulot et qui travaille fort, pour s'accoter sur un boulot de cette forêt-là pendant qu'il se filme, puis qu'en plus, il y a des lettres de gravé dedans et que les lettres gravées dedans sont un mot offensant. Et tout ça serait le fruit du hasard, selon le principal intéressé, selon les vidéos d'excuses les plus médiocres que Guillaume Lemaitre-Vierge pouvait faire. Évidemment que non, c'est pas un hasard. Il y a 4-5 personnes qui pensent que oui, comme lui, que c'est un hasard. Non, 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 non. Tu peux pas inventer ça. Tu peux pas tomber par hasard sur le seul arbre raciste de la forêt. Et que ça donne que tu veux utiliser une expression raciste sans la dire. Ben non. Ben non. Guillaume Lemaitre-Vierge réalisait des émissions comme 30 vies et District 31 avant de perdre ses contrats-là avec la maison de production de Fabienne Larouche. Donc, si quelqu'un sait comment travailler son image caméra, c'est bien un réalisateur d'émissions de télévision. Et il ne fait pas juste s'accoter sur l'arbre. Il tapote l'arbre avec sa main vis-à-vis les lettres gravées. Ce n'est pas un hasard. Là. Face caméra, ce n'est pas un hasard. T'sais, si vraiment il voulait faire une joke de boulot, il en aurait pris un autre, si, comme par hasard. Parce que c'est pas juste de se filmer. C'est de la filmer, de faire le découpage, de la mettre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Et il a trouvé le tour quand, justement, ça s'est gâté pour lui de supplier Guillaume Lepage de l'inviter à Tout le monde en parle la fin de semaine dernière pour essayer de s'expliquer. Mais on se souviendra que le même Guillaume Lemaitre-Vierge a essayé de ridiculiser Guillaume Lepage pendant le gala des Gémeaux en interrompant Véronique Cloutier pour blaster et Guillaume et Louis Morissette dans un discours complètement absurde qui incitait subtilement les gens à peut-être voter pour Éric Duhaime pendant la campagne électorale. Il s'est surpris que Guillaume Lepage ait refusé son invitation et après ça, il s'est tourné vers Varda Étienne qui, elle-même, en entrevue, a dit « Mais je te connais pas. T'es pas mon ami. Pourquoi tu me parles à moi? Tu sais, tu fais juste me parler à moi parce que je suis noir puis t'as besoin d'avoir une alliée noire avec toi pour avoir été un crétin sur Internet. » Évidemment. En plus, Varda, s'il y a bien une animatrice qui dit pas, qui contourne pas, qui dit sa façon de penser puis qui contourne pas les surtout avec Guillaume Lemaitre-Vierge, évidemment qu'elle y a dit... qu'il a dit sa façon de penser, mais tu sais, de penser que je vais me trouver une amie noire, elle va me défendre. Voyons, Guillaume Lemaitre-Vierge. Fait qu'à part saboter sa carrière, en tout cas ce qui y restait, parce qu'évidemment, ça y a coûté les chanteurs masqués, sa dernière émission qui n'était pas encore tournée, parce que techniquement, il est aussi. Commentateur, animateur à l'émission de thérapie de couple à TVA si on s'aimait. Après ça, rien n'empêche la production de recommencer tous les tournages d'Émilie Bégin en solo. Évidemment, ça sera peut-être pas, mais rien n'empêcherait que le bout à Émilie Bégin soit repris au grand complet, parce que c'est pas à elle de payer pour ça. T'sais, les gens sont aussi cabochons d'aller insulter Émilie Bégin parce que c'est la conjointe d'eux. T'sais, elle a clairement rien demandé dans toute cette histoire-là. C'est lui qui ne va pas bien, clairement, et qui continue à déraper à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, d'être raciste, de penser réussir à s'en sortir avec les excuses les plus bidons des dernières années, en se justifiant, oui, mais c'est juste une expression. Ben non, c'est pas juste une expression. C'est pas juste une expression, c'est le sens de ça. C'est le sens de l'expression, c'est l'histoire derrière l'expression, parce que travailler très fort comme une personne noire, parce qu'évidemment, ils travaillaient, hein, ils ont choisi leur travail à une certaine époque. Tu sais, l'époque de l'esclavagisme, c'était un travail pour eux autres, évidemment, tout le monde sait ça. Fait que tu sais, toute la connotation qu'il y en a en arrière de tout ça, c'est plus juste une expression. Puis comme quelqu'un l'avait dit cette semaine, quand les principaux intéressés, eux autres mêmes, disent qu'ils sont tannés d'entendre ce mot-là, de personnes pour qui il n'y aurait pas de conséquences de dire ce mot-là, bien c'est sûr qu'ils sont pas contents de voir Guillaume Lemaitre-Vierge qui fait de l'humour, entre guillemets, comme il essayait de se défendre, ou d'essayer d'être comique en utilisant un vocabulaire qui ne se peut pas. En 2024, utilisé dans un contexte qui n'est pas de parler du terme. Tu sais, c'est pas de décrire le mot, c'est de l'utiliser à son sens propre, dans l'expression propre, qui évidemment ne se dit plus aujourd'hui. Parce que justement, il y a des gens qui sont pas à l'aise et qui trouvent ça grave. Donc, essayez de leur expliquer. Non, non, c'est juste une vieille expression. Ben non. Il y a des affaires qui se disaient dans le temps, qui se disent plus aujourd'hui. Ça en est une. C'est un peu normal. Les mentalités évoluent, les sensibilités évoluent. C'est normal d'être au courant que des gens, ça peut les froisser. Donc, de se défendre en disant « Non, non, c'était juste une blague. Je m'en étais pas rendu compte. » C'est archi pauvre comme défense. Disons ça comme ça. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de cette émission de cette semaine, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Étienne Dufresne, qu'on vient d'entendre en musique avec « Je fais des efforts ». Un de mes sujets préférés, les analyses de sondage. Il y en a d'autres qui sont sortis cette semaine. Puisqu'on a demandé aux Québécoises et aux Québécois ce qu'ils pensaient du budget et de l'endettement d'11 milliards de François Legault, avec ses comptables comme ministre, de savoir si, évidemment, la population était de son bord. Et évidemment, les gens ne le sont pas. Donc, des sondages qui sont sortis cette semaine donnent à nouveau l'avantage au Parti québécois, plutôt que la CAQ, qui se ramasse en troisième, voire deuxième position au meilleur, sinon le PQ domine dans toutes les régions. Et étonnamment, Québec, la grande région de Québec, est là où le Parti québécois domine le plus, avec 43% des intentions de vote, suivi à la CAQ, qui fond à 20%, ce qui donne aucun siège à l'entièreté de la coalition Avenir Québec pour la région de Québec. Donc, Jonathan Julien, Geneviève Guilbeault, Éric Kerr, Bernard Drainville, Martine Biron sont tous rayés de la carte si des élections avaient eu lieu cette semaine. Le PQ rallierait à peu près toutes les circonscriptions, sauf Étienne Grandmont qui conserverait son siège, même Sol Zanetti est en danger dans sa circonscription. Et peut-être qu'Éric Duhaime pourrait l'emporter s'il reste dans Chauveau, même s'il a plus de chances de gagner s'il se présente en Beauce. Parce que ça, la Beauce, c'est acquis pour le Parti conservateur. Sinon, il reste... pas Chaudière-Appalaches, mais Lobinière-Frontenac. Et peut-être la circonscription juste avant le Bas-Saint-Laurent, dont j'oublie le nom en ce moment, mais qui entoure la Beauce. Donc, c'est à peu près les seuls bastions. Et même Éric Duhaime, qui était à 10 comtés il n'y a pas si longtemps, tombe à seulement 5, dont ils sont tous dans Chaudière-Appalaches, la région. Aux âges, Québec solidaire l'emporte quand même chez les 18-34 ans, mais 35 ans et plus, puisque les 35-54 et les 55 et plus se rangent du côté du Parti québécois. La CAQ en deuxième position, et on s'échange les libéraux un peu partout. Les 55 ans et plus votent en troisième position pour le Parti libéral, les 35-54 en dernier, avec seulement 11% des intentions de vote. Et ça se confirme. Le vote francophone va au Parti québécois, le vote anglophone à la moitié va au Parti libéral. Ce qui donne, en termes de sièges projetés, avec les pourcentages qu'on a en ce moment au global, pourrait donner 69 sièges au Parti québécois, ce qui peut donner un Parti québécois majoritaire, puisque ça prend 63 pour avoir la majorité, il y en aurait 6 de plus. Évidemment que ce sont des bons chiffres. On est quand même à 2 ans des élections. Donc c'est sûr que ça a le temps de rechanger encore énormément. Mais en ce moment, la coalition Avenir Québec qui passe de 89 à 11 et que dans les pires scénarios, si la CAQ perdait toutes ses luttes serrées, pourrait faire jusqu'à un seul député élu, puisqu'il y a une marge d'erreur de 1 à 29, donc médian à 11. Mais ça veut quand même dire que la CAQ pourrait complètement se faire éliminer de la carte électorale si, par exemple, le Parti québécois gagnait toutes ses luttes serrées contre la CAQ, si le Parti libéral regagnait ses sièges dans la région de Montréal et Laval, et si Québec solidaire arrache Saint-François en Estrie et l'Abitibi d'Émilise Lessard-Terrien, la nouvelle co-chef, la nouvelle porte-parole. Donc, si vraiment dans tous les scénarios la CAQ perdait entièrement, elle ne serait plus, la formation politique ne serait plus un parti reconnu par l'Assemblée en passant de 89 à 1. Ça, c'est vraiment un scénario catastrophe là, pour la CAQ. Et je me demande si le 1, c'est François Legault. J'ai juste les chiffres de sièges que ça peut donner, mais je serais curieux de voir ces mêmes à l'Assomption que François Legault conserverait son siège, mais évidemment, s'il est le seul à sa formation et que les 88 autres sont tous éliminés, évidemment que François Legault ne resterait pas. T'es passé de premier ministre à député de fond de salle, impossible. Mais ce sont des résultats catastrophique pour la coalition Avenir Québec, qui n'aura été un parti que d'une seule élection. Bien, de deux élections, mais comme plusieurs le disent, la première compte plus ou moins à cause de la pandémie. Donc, on a remis le sort de la province entre les mains du premier ministre qui était là, qui a réussi à faire ce qu'il était capable de faire. Mais qu'en tant que tel, il n'y a pas eu à gérer normalement la province. Parce que si ce qu'il fait en ce moment, en 2022-23 jusqu'à 26, il l'avait fait en 1822. On oublie la pandémie et qu'on place le bilan actuel de la Coalition Avenir Québec dans le temps avec ce qu'il avait fait pendant ses 4 ans de premier pouvoir. Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Est-ce qu'il aurait été réélu à ce point-là aussi fort, aussi majoritaire? Évidemment que non. Je regarde rapidement dans l'Assomption. Même François Legault serait défait. Le dernier comté caquiste n'est pas celui de François Legault en ce moment. Donc, pour l'instant, François Legault est là pour rester parce qu'il est majoritaire et il peut faire ce qu'il veut. Donc, il va continuer à faire ce qu'il veut. Mais c'est évident qu'au budget, dans 2 ans, quand on sera à la veille de la campagne électorale, il ne pourra pas se permettre de faire des déficits de 11 milliards de dollars, de garrocher de l'argent à des joueurs de hockey pour des pratiques ou d'annoncer en grande pompe un seul milliard, un petit peu moins d'un milliard, mais avec les dépassements de coûts, on va le pogner, pour rénover le toit du stade, pour éventuellement avoir, mot-clé ici, Taylor Swift en concert dans 10 ans. Parce que ça va prendre ça à peu près pour réussir à rénover ça un temps soit peu comme du monde et que le son soit ajusté pour que ça se peut d'aller voir un concert au Stade olympique. Pour que d'un coup que Taylor Swift voudrait venir à Montréal. Caroline Prouette-Nay a dit que Taylor Swift allait venir au centre, j'allais dire au Centre Vidéotron, mais au Stade olympique. Je pense pas qu'elle avait rempli. Avais-tu rempli le Centre Vidéotron? Ou ça avait-tu été annulé? Parce qu'il y a beaucoup de shows qui ont été annulés au Centre Vidéotron aussi. Fait que voilà. Avenir pour avoir pour les 2 prochaines années, comment ils vont réussir à se dépatauger là-dedans. Mais en ce moment, l'avenir de la CAQ se compte en dodo. Ça en fait une coupe. Mais ça ne se compte plus comme étant un 3e, 4e et 5e mandat comme François Legault l'aurait espéré. Ça, c'est définitivement à rayer de sa bucket list. En ce moment, les chances qu'il soit premier ministre pour un 3e mandat consécutif s'en vont de nul à archi impossible. Disons ça comme ça. On s'arrête quelques instants, on retourne la suite du deuxième service. Sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHES 94.3. De retour au deuxième service, FELP et Laurent-Anne avec Dino, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHES. Bande annonce maintenant. Bon, c'est un film sous-titré, donc elle sera en anglais, mais voilà, le film est présenté avec sous-titres seulement Une vie, One Life, la vie de Sir Nicholas Winton.
To on air.
Okay, and you are just here.
Good night, said Father Beck.
Now, an extraordinary story about a young man who many years ago visited Prague. What he found there were thousands of refugees at the mercy of Hitler's imminent invasion.
Do you ever think about the children and what happened to them?
I bet you got some stories.
That's really not about me.
We are working to evacuate these children by train to safety in Britain.
Why are you doing this, Mr. Winton?
Because I may be able to do something about it. I must.
Nikki, you must know we cannot save them all. You have to forgive yourself that.
I started, sir. I have to finish it.
We cannot let these people down.
It is incredible what you achieved.
We're doing as much as we can.
You have a lot of faith in ordinary people.
Because I'm an ordinary person.
Save one life, save the world.
Forgive me, but how many children are we speaking about?
Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton?
Prague, 1938, alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicholas Winton, Sir Nicholas Winton, il a été fait Sir par la reine de fin 90, début 2000, de mémoire, va organiser des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire vraie reste méconnue pendant des décennies et est dévoilée au monde entier lorsqu'en 88, une émission britannique invite Nicholas à témoigner. Celui-ci ne se doute pas que des enfants qu'il a sauvés se retrouveront autour de lui, désormais adultes, qui ont survécu grâce au système qu'il avait mis en œuvre à cette époque-là. Anthony Hopkins joue Sir Winton à l'âge de 80 ans. C'est Johnny Flynn qui le joue en 1938. J'avais déjà vu la vidéo sur les réseaux sociaux, justement, du monsieur à un... L'équivalent québécois, ça serait les retrouvailles de Claire Lamarche. Mais tu sais, en tant que telle, cette émission-là, c'est un genre de Oprah, mais que dans ce segment-là, à la première émission qu'il va faire, il se retrouve à côté d'une dame qui, bon, est rendue à peut-être une soixantaine d'années, 50-60 ans, qui, elle, a survécu à ce qui s'est passé à Prague parce qu'elle a réussi à embarquer sur un des trains que Nicholas Winton et son équipe avaient réussi à faire traverser le pays, ben, les pays pour partir de Prague et arriver au Royaume-Uni. Ce qu'il devait faire, bon, c'était de faire approuver des passeports dans la plus grande vitesse, lui, à Londres, pour être capable de recevoir les enfants. 669 qu'il a réussi à sauver. Le dernier train qui aurait pu en contenir un 250 supplémentaire, lui, ne s'est jamais rendu. Essentiellement, bon, c'est ça, cette histoire-là est un peu moins connue. On pourrait penser à la liste de Schindler, qui, bon, évidemment, ne se passe pas au Royaume-Uni, à Prague, mais tu sais, c'est dans le même principe que ce monsieur-là qui a décidé d'essayer de sauver le plus de jeunes possible. Sa mère, en 1938, qui est interprétée par Helen Bonham Carter. Fait que, tu sais, c'est un fait qui existe. Cette vidéo-là, comme je le disais, a circulé beaucoup dans les trucs fascinants qui sont déroulés dans l'histoire. Puis justement, cet extrait d'émission-là est recréé dans le film. Puis bon, qu'on le sache ou non, c'est bien joué, là. Anthony Hopkins se défend extrêmement bien. Et même lui, il le disait, tu sais, rendu à 80 ans, il doit commencer un peu à se départir de tous ces papiers-là qu'il avait gardés depuis la Deuxième Guerre, de toutes ces archives-là que, ouais, un moment donné, il va falloir faire de quoi avec ça. T'sais, il va rencontrer les Maxwell, justement, qui vont lui dire, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Là, t'sais, lui, c'est pour ça qu'il se ramasse à la BBC dans cette émission spéciale-là. Puis, tu sais, l'espèce de lui-même ne s'était peut-être pas rendu compte. Il n'a pas fait le suivi nécessairement avec les 669 enfants après ça qu'il a réussi à sauver et que parce qu'ils ont vu cette entrevue-là la première fois, ont contacté la BBC pour faire comme « Moi aussi, j'aimerais revoir ce monsieur-là, ce qui donne droit au dernier droit du film, mais... » Bon, c'est ça, il est sous-titré en français, il n'est pas doublé en français, il est sous-titré, mais ça se comprend bien. Là, même si ce sont Même si des fois les accents anglais peuvent être un peu difficiles, là, ça va, là, c'est pas trop mal. Maison du cinéma à Sherbrooke, Le Clap à Québec, valeur sûre pour aller voir Une vie, One Life. Mais ne serait-ce que pour connaître ce fait, ben, fait divers, oui et non, mais tu sais, pour. Parce qu'il y avait une ampleur, tu sais. Il y a eu des lettres ouvertes dans les journaux en Angleterre qui, bon, disaient on veut aider des enfants, là, aidez-nous à les adopter. Ça coûte 50 pounds pour juste payer le visa express pour les faire rentrer au pays. Puis justement, parce qu'ils ont le sceau britannique, parce qu'ils sont des citoyens britanniques avec ces passeports-là, ils ont pu passer les frontières. Et justement, ces vies-là ont été sauvées parce qu'ils disaient, si je me souviens bien, des 14 000 enfants qui avaient été enfermés à Prague, il y en est resté à peu près 200. Autour de 200. Donc, en plus des 669 que Sir Nicholas avait réussi à sauver de justement se ramasser dans les camps de concentration. Nicholas Winton. Fait que ça vaut la peine. C'est un drame biographique. C'est bien fait. Là. Si on a un peu de compassion, on s'attache très rapidement à ces personnages-là. Il y en a qui, évidemment, bon, n'auront pas de suite ou quoi que ce soit. Puis, Colin, on reste un peu fâché de tout ça, mais ça vaut la peine d'être vu. Donc, avec Anthony Hopkins, Ellen Bonham Carter, c'est Johnny Flynn que j'avais dit. Une vie, one life, version anglophone, sous-titrée en français. Comme je le disais, Maison de cinéma, Le Clap, 2. On s'arrête quelques instants au retour. La conclusion de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Caravane, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. En terminant cette semaine, je pense que j'en avais déjà parlé, mais là, on arrive tranquillement pas vite vers les derniers épisodes. Et c'est franchement intéressant. C'est le documentaire « Être ado » sur les ondes de Télé-Québec. On suit le parcours de 10 jeunes entre leur secondaire 1 et leur secondaire 5, donc de 2023 à 2018. Et donc, on a en plus un regard direct sur les jeunes pendant la pandémie, ce qu'ils ont fait, l'école à la maison et tout ça. Et ces 10 jeunes qui viennent de un peu toutes les régions du Québec. Et même s'ils ont tous le même âge, tu te rends compte à quel point ils ont tellement tous des parcours de vie tellement différents. Et de constater l'évolution de ces jeunes-là aussi, parce que en secondaire, évidemment, à quelques reprises, ils font l'exercice de comparer leur mentalité entre secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Et ça donne des extraits particulièrement savoureux. T'sais, une des vedettes, celle qui vient d'Alma, secondaire 1. Moi, je suis pas à veille d'avoir de petits chums, ça m'intéresse pas. Secondaire 3, c'est l'amour de ma vie. Secondaire 4, bon, on vient de se laisser, ma vie est finie. T'sais. Toutes ces espèces de contrastes-là, de justement, c'est la vie de ces jeunes-là, puis veux pas, l'adolescence, il y a des thèmes qui sont un peu communs à tout le monde, mais il y a tellement une belle variété dans ces jeunes-là. Tu sais, le classique, celui qui joue au hockey, qui veut performer, qui veut monter de grade. Bon, ben lui, son drame pendant la pandémie, c'était de pas pouvoir jouer au hockey. Du même âge, t'as le jeune qui est plus artistique. C'est lui, les secondaires 1 à 3, c'est le dessin. Il adore dessiner, fait des graffitis, il dessine dans ses cahiers. Secondaire 4, oups, photographie. Là, ça devient son plus gros passe-temps, prendre des photos, faire de la vidéo. Il veut s'inscrire et aller en art et technologie des médias à Jonquière. Il va visiter le pavillon du cégep de Jonquière. pour l'épisode sur les cégeps, parce que la prochaine étape après secondaire 5, c'est le cégep. Fait que là, on parle des bulletins. Dans son cas, lui, c'est ça. Il veut pas être habillé comme tout le monde. T'sais, secondaire 1, il s'habille en skate. Puis là, il se trouve tellement ridicule qu'il s'habille en skate en secondaire 1. Puis en secondaire 5, il est encore là de s'habiller en skate. Mais ça, c'est un autre débat, mais quand même. Fait que tu sais, cette espèce d'évolution-là, celle qui m'a marqué le plus aussi, il y en a une qui disait en secondaire 1, « Ah, moi, je veux plein d'amis dans mon secondaire. Je veux tellement... Je veux, tu sais, j'aime ça faire des sorties avec mes amis, nanana, secondaire 4. Ah, le monde m'énerve, je suis tanné, puis elle a deux amis. » Fait que, tu sais, tout ce contraste-là, il y a vraiment de belles images. C'est produit par KO TV. Il y avait été à Tout le monde en parle en début d'année pour justement parler avec trois déjà, ben le joueur de hockey, puis Rachel André d'Alma. Fait que, tu sais... Il y a celle aussi qui reste en Montérégie, qui travaille sur une ferme, qui, elle, a fait l'école à la maison un peu, l'école à distance sur Internet, tu sais, qu'elle a plus ou moins d'amis proches, mais qu'elle, c'est le travail à la ferme, elle se voit pas autre chose que travailler dans un ranch ou de justement s'occuper de la ferme familiale et tout ça, tu sais, il donne... Elle a 16 ans, puis il donne une maison... qui est sur un des terrains, ben, tu iras rester là. Tu seras plus proche de la ferme, tu iras t'occuper de ça, parce qu'elle est tellement mature pour son âge, justement, puis comparativement à l'autre jeune qui, lui, ses parents l'ont gâté pourri, qui est secondaire 1. « Ah, mais là, je veux les nouveaux sneakers, je veux une TV dans ma chambre, je veux ci, je veux ça. Oh, projet de déménager, je vais avoir mon sous-sol, je vais avoir mon salon, je vais avoir telle affaire. » Et le contraste avec la réalité est en secondaire 5, puis le sous-sol n'est pas fini. Fait que, tu sais, tout ça, là, tu sais, l'espèce d'évolution en 5 ans, comment ça va relativement vite, que les sujets, oui, sont communs, mais comment ça a été complètement abordé différemment. Au début de la série, il y en a deux qui sont amis. Il y a deux petits gars qui, eux autres, sont amis, puis que rendu en secondaire 5, ils se parlent à peu près plus, parce que ça arrive. C'est aussi des amis d'enfance qui, au secondaire, ils vont pas à la même école en plus, fait qu'ils ont plus les mêmes amis communs. Un de ces deux-là, lui, secondaire 1, il veut se rapprocher de son père, qu'il voit pas beaucoup, puis qu'il aimerait ça qu'il vienne à sa fête, puis des choses comme ça. Secondaire 5, ben, s'il est là à Noël, c'est correct. Là, sinon, je m'en fous. Il se fout de moi, je me fous de lui. Tu sais, il y a tellement des évolutions aussi belles que moins belles. Tu sais, le jeune qui reste à Mastoyache, lui, justement, il y a un drame qui arrive dans sa famille au courant des années. Puis, tu sais, lui, son but, c'est au minimum avoir son secondaire 5, tu sais, finir son secondaire 5, puis être le premier à tiller le bébé, fait qu'être le premier enfant de la famille à avoir son secondaire 5 parce qu'ils ont un peu tous eu des difficultés à l'école. Puis lui, il est en voie de réussir. Mais tu sais, la pandémie, c'est venu gâcher les plans, ça l'a retardé d'un an. Mais il est quand même motivé à finir son secondaire 5, à aller aux adultes, à compléter son parcours, à aller au cégep après ça, tu sais, de voir le parcours de ces jeunes-là est réellement intéressant, puis ils sont tous pertinents. T'sais, on essaye de les mettre à peu près égales. T'sais, évidemment, ils ont des vedettes, entre guillemets. Il y en a une seule qui abandonne en cours de route ou qui a fourni un peu moins de matériel. Mais c'est correct aussi. T'sais, comme il disait en entrevue, ils en ont pris 10 pour une émission qui n'était pas vendue nulle part et qui a rendu à l'an 4. Ils ont réussi à trouver un diffuseur qui était le Québec. Mais qu'avant ça, il aurait peut-être tout tourné ça pour rien, entre guillemets. Puis justement, au sortir de la pandémie, ils étaient encore tous là, sauf une. Et juste pour ça, ça vaut la peine. C'est vraiment la réalité, tu sais, la vraie réalité des jeunes d'aujourd'hui. C'est comme, à tout le monde en parle, Kim Lévesque-Lisotte le disait, tu sais, c'est pas des jeunes à problème qui prennent de la drogue puis qui consomment de l'alcool à profusion. Tu sais, c'est des jeunes... ordinaires, ils viennent tous de milieux un peu différents, mais qui, au final, auraient pu tous se côtoyer dans la même école secondaire et ça se serait pu. Mais là, dans ce cas-ci, c'est ça, on va à Gatineau, on est à Montréal, on est sur la rive sud, la rive nord, Saguenay, au lac, la Montérégie, Grimbay, Saint-Paul-la-Botsford. Fait que, tu sais, toutes ces réalités-là, tous ces jeunes-là qui ont le même âge, mais tous des parcours différents. Il y en a, leurs parents sont en couple, les autres sont en... Ils vont pour divorcer. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Il y a tous ces enjeux-là, tous réunis dans un Québec moderne qui vaut vraiment la peine. Donc, sur les ondes de Télé-Québec, il reste encore quelques épisodes. Sinon, c'est tout en rattrapage sur le télé-québec.tv. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut.